passion moderniste. Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion moderniste, je vous propose depuis 2019 d'écouter de jeunes chercheurs et chercheuses qui sont en master ou en thèse pour vous raconter leurs recherches passionnantes sur l'époque moderne. Et pour rappel, alors l'histoire, l'époque moderne, c'est cette période qui s'est en quelque sorte glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 48, Carla et les collectionneuses au XVIIIe siècle, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui est un peu la continuité du dernier hors-série produit en partenariat avec le musée de Valence sur les débuts de carrière en pleine nature italienne des peintres Hubert Robert et Fragonard. Si vous ne l'avez pas écouté, vous savez quoi ajouter à votre liste d'écoute. Parce que aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carla Tricon. Bonjour Carla.
Bonjour Fanny.
Je te reçois parce que donc, tu es diplômée de l'école du Louvre pour ta licence et tu es actuellement en master à l'université Sorbonne Paris 4 et tu fais un mémoire sur les collectionneurs, en tout cas une collectionneuse du XVIIIe siècle. Et donc on va voir, je divulgage un petit peu, que ces collectionneuses aiment beaucoup la peinture. C'est pour ça, on est un peu dans le contexte encore de l'épisode d'avant. Donc on va voir ça avec toi et donc tu es sous la direction de Michael Zanto, c'est important de le dire. Et donc, à l'université Sorbonne Paris 4, tu as d'abord fait un M1 sur le sujet « Le discours théorique féminin autour du tableau à Paris au XVIIIe siècle, le cas de la présidente de Bandeville ». On va pas mal en parler dans l'épisode. Et donc là, actuellement, tu es en deuxième année où tu continues de travailler toujours sur ce sujet, mais en ajoutant « Oh, une restauratrice de tableau, une salonnière ». Voilà, donc dans tes recherches, tu avances un peu plus dans tout ce contexte social et on va parler de tout ça, de pas seulement de la peinture, mais tout ce qui va autour. Alors déjà, première question, un petit peu rituel dans mes podcasts, Carla, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ?
Alors déjà, merci beaucoup Fanny d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui. Alors, l'idée de ce sujet, elle est née durant la fin de ma licence à l'école du Louvre, lorsque je me suis rendu compte finalement qu'on parlait extrêmement peu des femmes, en général en histoire de l'art, et qu'on faisait comme si finalement elles n'existaient pas. Donc, lorsque je me suis intéressée véritablement à la recherche, je me suis questionnée finalement sur la place de ces femmes, alors des peintresses en général, mais de l'histoire sociale de l'art en général également. Donc, je me suis tournée vers Michael Zanto, professeur, voilà, maître de conférence à Paris 4, et c'est lui qui m'a orientée finalement petit à petit vers les collectionneuses, et c'est comme ça que j'ai rencontré la présidente de Bandeville notamment.
On va effectivement en parler. Et donc, on va raconter le contexte de cette période au fur et à mesure de l'épisode. Mais quand même, raconte-nous rapidement quand même, ouais. Quelles sont les bornes chronologiques que tu as choisies et pourquoi tu as choisi cette période-là en particulier ?
Bien sûr. Alors, les bornes chronologiques, elles se sont un petit peu imposées d'elles-mêmes, finalement, parce que le collectionnisme, c'est vraiment une pratique sociale et culturelle qui se développe et qui, finalement, connaît un essor sans précédent au XVIIIe siècle. Alors évidemment, on en connaît quelques-unes au XVIIe, mais c'est surtout réservé aux grands princes. Et au XVIIIe, il y a une forme de démocratisation. Et donc, on rencontre de nombreuses figures un petit peu inattendues. Et donc, je borne mon sujet entre les années 1700 et alors je vais jusqu'aux années 1815 parce qu'il y a beaucoup des personnes de ce siècle qui meurent dans ces années-là. Donc, de fait, j'étire le sujet jusqu'aux années 1815-10.
Et pour ton sujet, donc tu travailles principalement sur Paris, est-ce que c'est parce qu'il fallait bien que tu choisisses quelque chose ou est-ce que vraiment ça a un sens d'étudier seulement Paris ?
Alors, les deux, dans la mesure où, effectivement, pour un sujet de master, je devais borner géographiquement mon sujet, le restreindre. Et, de fait, j'ai été amenée, en tout cas pour préparer ma thèse, à étudier rapidement.
Oui, parce qu'en fait, là, on ne l'a pas encore dit, mais tu vas peut-être faire une thèse bientôt. Donc, bon, bref, là, voilà. C'est encore...
Mais, en tout cas, j'ai pu comparer les pratiques du collectionnisme parisien avec celles en Europe de l'Ouest en général. Effectivement, Paris se distingue dans la mesure où elle se place entre une tradition méridionale et septentrionale du collectionnisme. C'est-à-dire que Paris, dans une dimension très traditionnaliste. Elle garde la pratique du collectionnisme italien qui consiste à conserver des peintures héritées de nos aïeux, enfin des aïeux, etc. Et donc de consacrer une place extrêmement importante aux peintures notamment et aux maîtres anciens, c'est-à-dire tout ce qui va être 15e, 16e, 17e. Et en même temps, cette fameuse démocratisation, en fait, elle se fait notamment par l'influence du marché de l'art flamand et hollandais qui arrive en masse au tout début du siècle, même un petit peu avant, toute fin du XVIIe, et qui donc permet d'élargir finalement les œuvres collectionnées, les horizons. Et donc, elle se place vraiment entre cette forme de modernité du collectionnisme très lié à ce fameux commerce et avec cette forme de traditionnalisme plus méridional.
Et donc, tu travailles sur les collectionneuses, un féminin qui n'est pas anodin. Alors, comment est-ce que tu définirais une collectionneuse au XVIIIe siècle ?
Alors, définir une collectionneuse, c'est quelque chose qui n'est pas facile, puisque à l'époque, déjà, elle ne se revendique pas comme telle. En tout cas, le terme n'existe pas comme cela.
C'est un terme d'historien après,
c'est
ça ?
Tout à fait, c'est un terme qui a été employé plutôt a posteriori. À l'époque, on parle plutôt d'amatrice ou d'amateur aussi pour les femmes, ou encore de connaisseur. Oui, il n'y a pas d'occurrence de connaisseuse à ma connaissance, justement. Et être une femme collectionneuse, enfin être une collectionneuse au 18e, c'est, selon moi, être une femme passionnée et être une fine stratège. Alors, on va le voir. Pour faire collection et être reconnue comme telle dans les milieux, il faut vraiment être, comment dire, organiser une forme de stratégie pour ne pas se faire reléguer au second plan dans les cercles intellectuels de l'époque.
On va voir. Non, mais c'est tellement intéressant. J'ai déjà tellement de questions. On va y aller progressivement, mais c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a des différences entre un collectionneur masculin et une collectionneuse, donc une femme ? Est-ce que déjà tu as pu voir qu'il y avait des différences dans ce qu'ils pratiquent ?
Alors oui et non, je vais être un peu embêtante, mais en fait ça dépend surtout, d'après ce que j'ai pu voir, du statut social de la personne. C'est-à-dire que, alors ça, c'est pas moi qui l'ai étudié, c'est Olivier Bonfait dans son article sur les collections de parlementaires parisiens. Il explique que dans ces fameuses grandes maisons de financiers et de parlementaires, il y a une nette distinction entre les collections de femmes et les collections d'hommes. Pour donner un petit exemple, les collections d'hommes sont davantage dévolues à l'exposition de grands tableaux d'histoire, de grands tableaux mythologiques et de scènes un petit peu, comment dire, de tout ce qui est vraiment à la pointe de la modernité, à la pointe du goût à l'époque, notamment pour les peintures flamandes et hollandaises, des scènes de genre. Et on relègue finalement les femmes à ne pouvoir collectionner que des tableaux de dévotion, des tableaux religieux de format moyen, et à collectionner les petites gouaches, les dessins, bref, ou des tableaux représentant des genres mineurs, particulièrement le portrait. Pourtant, c'est pas toujours le cas, voire même pas du tout le cas pour les personnalités que j'ai étudiées. Je vais vous parler notamment de la comtesse de Véru, Jeanne Albert de Luynes, qui est une figure absolument passionnante, qui, elle, bien au contraire, en a fait vraiment, entre guillemets, qu'à sa tête. C'est-à-dire qu'elle a vraiment révolutionné, là on peut le dire sincèrement, le collectionnisme des toutes premières décennies du 18e, puisqu'elle est morte dans la fin des années 20 et on a vendu sa collection dans les années 30. Elle a vraiment révolutionner le goût dans la mesure où elle a initié l'élite parisienne au goût pour ces fameuses scènes de genre hollandaises, ces natures mortes. Bref, vraiment, tous les autres collectionneurs de l'époque aimaient profondément la peinture italienne et ne juraient presque que par ça. Et elle est arrivée en finalement érigeant en exemple, en modèle parfait la peinture hollandaise. Et par exemple, la présidente de Bandeville ne collectionne pas comme une femme, entre guillemets, ça on le verra peut-être, mais elle ne se cantonne à aucun genre et collectionne du tout avec beaucoup de goût. Donc la réponse, elle est nuancée. Et malgré tout, à l'époque, il y a déjà des stéréotypes finalement qui existent. Et quand on entend qu'une femme collectionne, on insinue toujours que ce n'est pas une grande collection.
Mais avant encore de rentrer en détail sur ce qu'elle collectionne, juste restons encore sur le profil des collectionneuses. On est d'accord que si on doit quand même définir en général qui sont les collectionneuses, c'est plutôt des femmes aisées qui ont de l'argent.
Tout à fait. C'est une vérité, on ne peut pas faire collection si on n'est pas issu de la noblesse ou à minima de la petite noblesse. Après, ça c'est une des choses que je suis en train de travailler, d'essayer de peut-être redéfinir la notion de collection, puisque en fait, je me suis rendu compte en cherchant qu'il y avait énormément dans la toute petite noblesse, des collectionneuses qui se passionnaient pour la petite peinture de dévotion. Alors, certains diront que c'était pour une dévotion privée, de la piété familiale, etc. Mais je m'interroge. Donc pour l'instant, je ne veux pas prononcer, mais voilà.
Mais est-ce que c'est simplement un hobby de femmes mariées, hein, je caricature volontairement, ou est-ce que c'est une sorte de profession qui leur permet un peu de gagner leur vie ?
Alors, on se penche plutôt du côté du hobby, effectivement, puisqu'en fait, on ne peut pas gagner sa vie en étant collectionneuse à l'époque. C'est peut-être moins le cas, entre guillemets, enfin, ça s'institutionnalise, même si c'est pas le bon terme, davantage au 19e, mais c'est clair que au 18e, on ne peut que faire collection par plaisir et en étant aisé.
On n'est pas sur des marchandes d'art, on est bien d'accord, c'est qu'en général,
pas du tout,
ouais. Elles collectionnent et elles gardent pour elles, c'est pas pour revendre après.
Effectivement, c'est ça, c'est pas du tout un commerce. D'ailleurs, généralement, lorsque les œuvres entrent dans une collection, il est extrêmement rare qu'elles en sortent avant la mort de la collectionneuse.
Mais donc, est-ce qu'il faut un certain niveau de collection pour qu'on les appelle collectionneuses ? Parce que là, quelle différence entre juste vouloir meubler sa maison, avoir juste, bon, bah, on va des beaux tableaux au mur, et d'avoir une vraie collection ? Où est-ce que tu situes la différence ?
C'est Pierre Chenu qui a théorisé cette forme de classification. Alors, il y a plusieurs critères. Donc, pour être estampillé collectionneur-collectionneuse, la première, évidemment, c'est le nombre de peintures ou d'œuvres d'art que l'on collectionne. Là, si on reste sur la peinture, c'est à minima 50.
Ah ouais, 50 ?
50, oui. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais alors, la plupart des collectionneuses que j'étudie sont entre 100 et 300, peut-être, œuvres d'art, tableau.
D'accord.
Ensuite, évidemment, il y a la qualité. Et il faut que la qualité soit reconnue en tant que telle à l'époque, donc qu'elle soit prisée, par exemple, dans les inventaires en tant que telle. Il faut avoir souvent hérité des œuvres qui ont une forme de continuité dynastique. Alors, c'est pas une règle absolue, mais ça l'est souvent, tout de même.
Donc là, on insiste bien que oui, c'est un loisir très bourgeois, aristocratique, réservé à une certaine élite. C'est quand même plutôt clair, là.
Tout à fait. Et le dernier élément, et ça, c'est ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est le fait que les œuvres soient centralisées dans un espace qui a été conçu pour les accueillir, comme un écrin, finalement.
Donc, c'est pas juste, elles en ont un peu par-ci, par-là. Non, il faut qu'il y ait vraiment une pensée collectionneuse.
En fait, exactement. Et en fait, ça se distingue énormément du simple décorum d'intérieur, entre guillemets. Et souvent, on fait la confusion, finalement. Et voilà.
Et est-ce que c'était bien vu d'être une collectionneuse à l'époque ? Parce que, bon, on peut dire c'est un loisir de quelqu'un qui a de l'argent, mais est-ce qu'elle pouvait être critiquée pour ça ?
Tout à fait.
Ah ouais ?
Oui, ça c'est très intéressant d'un point de vue gender studies, justement.
Études du genre, études des femmes.
Tout à fait. Puisque, effectivement, alors il y a deux cas de figure principaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier cas de figure, ce sont les femmes qui collectionnent ce que l'on attend d'elles, c'est-à-dire de la peinture de dévotion, des portraits, des fleurs, etc. En fait, tant que c'est joli et que ça ne bouscule pas les codes, tout va bien. En revanche,
mais
parce qu'il y a forcément un mais, lorsqu'une femme s'aventure sur un terrain sur lequel elle n'est pas la bienvenue, là, ça pose problème. Alors, j'aimerais parler très rapidement peut-être d'un exemple qui est assez fameux. C'est celui de la présidente Thiron d'Arconville. Alors, c'est une femme qui s'est surtout intéressée à la peinture, bien sûr, mais notamment à l'histoire naturelle.
J'ai cru que c'était comme ton nom de famille, mais non, toi, c'est Tricon.
Oui,
c'est Thiron.
Pardon. Tout à fait. Non, je n'ai pas un homologue au 18e, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc, cette fameuse présidente, elle est passionnée d'histoire naturelle. Et quand je dis d'histoire naturelle, là, on entend d'un point de vue scientifique, finalement, tout ce qui est minéralogie, taxidermie, bref, tout ce qui tend à regrouper des artefacts naturels en général. Et en parallèle de ça, elle s'intéressait énormément à l'anatomie humaine.
Ah !
Oui !
Je commence à voir où est le problème.
Ah là là, effectivement. En fait, dès qu'il y a un enjeu scientifique, ça dérange. Dès que les femmes mettent un pied dans l'espace scientifique, ça peut devenir problématique. Et elle est une des premières femmes à avoir théorisé l'ostéologie, c'est-à-dire l'étude des os, et a publié un traité sur les os, et évidemment l'a fait de manière anonyme. Mais quelques décennies plus tard, lorsque son traité a été portée en triomphe dans toutes les académies, elle est revenue en disant « Voilà, je vais vous montrer, c'est bien mes travaux, c'est bien mes recherches, etc. » Donc, vous voyez que ces collectionneuses, elles sont souvent liées au domaine scientifique et ça peut poser problème.
Donc, ouais.
Par exemple, aussi, la présidente de Bandeville, elle était extrêmement intéressée également par l'histoire naturelle. Elle a profondément lié son cabinet d'histoire naturelle avec sa collection de peintures, on le verra, dans son dispositif expositionnel, dans l'agencement de sa collection. Et lorsque sa collection a dû passer en vente juste après sa mort en 1787, l'expert qui s'est chargé d'organiser la vente, dans l'avant-propos de son catalogue, l'a tout de suite décrédibilisé finalement en expliquant, je cite, que c'était un simple amusement sans aucune portée scientifique. Et en même temps, quelque part, il se contredit un peu parce que quelques lignes après, il incite les amateurs à acquérir la collection pour, je cite, s'éviter 35 années de dur labeur. Donc, c'est très compliqué finalement, mais globalement, on n'aime pas trop que les femmes s'intéressent à ce genre de choses.
Mais est-ce que ces collectionneuses, elles le font par tradition familiale, transmise par leurs parents, par leurs frères et sœurs, ou est-ce que tu vois aussi des collectionneuses, entre guillemets, spontanées ?
Eh bien, les deux cas existent. Alors, le cas le plus, j'ai envie de dire, commun, c'est effectivement une collection qui est née d'un noyau, d'un héritage familial. Souvent, malgré tout, c'est les pères qui transmettent leur collection aux filles.
Et pourquoi aux filles d'ailleurs ? Parce qu'ils pourraient transmettre à leurs fils ?
Effectivement, à leurs enfants en général.
D'accord, ok.
En réalité, en tout cas, sur les exemples sur lesquels j'ai pu travailler, notamment la présidente de Bandeville, c'est son père qui lui a transmis le noyau d'une quinzaine de très très beaux tableaux, puisqu'en fait, elle n'avait pas d'autres frères et sœurs.
D'accord, oui, donc voilà. Ça s'explique, ouais.
Effectivement. En revanche, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a effectivement des collections dites spontanée, dont l'impulsion finalement s'est faite par goût très personnel. Et en même temps, à Paris, il y a une pratique un petit peu singulière, c'est celle de la vente après décès quasi systématique. C'est-à-dire que lorsque une personne collectionne dans une famille, là pour le coup, qu'elle soit homme ou femme, souvent les héritiers ne conservent pas la collection et la disséminent quasi instantanément. Alors, il est possible, évidemment, que par le testament, il conserve un ou deux tableaux un petit peu phares de la collection du père, par exemple. En revanche, c'est très important à Paris, pour beaucoup de jeunes collectionneurs, de recommencer une collection un peu ex nihilo, donc c'est-à-dire à partir de rien, finalement, pour, comment dire,
briller en société ?
C'est ça, et surtout pour faire une collection très proche de leur identité, finalement, pour avoir une marque, pour s'affirmer très personnellement et de faire vraiment la promotion de son individualité.
Ce qui est plutôt effectivement dans le courant d'esprit du XVIIIe siècle.
Tout à fait, tout à fait.
Bah, rentrons justement allez, maintenant un peu plus en détail dans ces collections. Donc on l'a dit, elles collectionnent quoi en général ? C'est quand même beaucoup de tableaux, c'est ça ?
Alors effectivement, en France, la tendance est au tableau, majoritairement. Pour autant, on voit quand même de la petite sculpture dans de nombreuses collections, parce que évidemment, la grande sculpture, c'est plutôt réservé aux élites, là pour le coup, princières. On observe aussi beaucoup d'objets d'art. Alors, le 18e, ça c'est parfait pour ça. Évidemment, avec l'ouverture sur le monde, notamment sur l'Orient en général, on importe en France énormément de céramique, de porcelaine chinoise, japonaise, etc. Des objets d'art comme des paravents aussi. Et le 18e siècle est aussi l'apanage du développement du cabinet d'histoire naturelle.
À différencier des cabinets de curiosité qu'on voit un peu plus à période d'avant, c'est ça ?
Exactement. Alors ça, c'est une grande question. Les cabinets de curiosité, en fait, on les connaît, ils se développent surtout en Italie, à travers le 16e, aussi au 17e, où là, il y a plus une généralisation en Europe. Et la dimension, oui, la curiosité est vraiment le terme adéquat, dans le sens où il n'y a pas un intérêt scientifique qui s'en dégage. Il y a plutôt une dimension parfois presque magique, en fait, qui en ressort. C'est-à-dire qu'on collectionne
ésotérique un petit
exactement,
peu.
Exactement, les bizarreries, oui, toutes les choses étranges. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais au 16e, par exemple, on retrouvait régulièrement des pseudo-cornes de licorne auxquelles on attribuait des pouvoirs de guérison, enfin bref, avec une dimension magique assez singulière. Tandis qu'au 18e siècle, et surtout à la fin du siècle, avec cette forme de fascination pour la science et surtout pour le musée, la notion de musée qui commence à entrer dans les mœurs, on commence finalement à classer, trier dans une dimension scientifique. En fait, c'est la taxonomie qui se développe. C'est comme ça qu'on appelle l'action de trier.
Oui, l'action de trier, la taxonomie, donc pas, ouais. Pas la taxidermie, non, ça n'a rien à voir.
Effectivement. Enfin, les deux ne sont pas incohérents. On peut classer, mais...
Donc si on revient aussi un petit peu au tableau, alors t'en as déjà un petit peu parlé, mais quels sont un peu les artistes qu'on retrouve beaucoup collectionnés par ces collectionneuses ?
Alors, les artistes qui sont extrêmement collectionnés par les collectionneuses et par les collectionneurs pour le coup en général, parce qu'il n'y a pas tellement de distinction pour les profils, comment dire, d'artistes collectionnés, ça va être des artistes italiens anciens, c'est-à-dire des artistes de la Renaissance. On a du Raphaël, évidemment. Si on peut avoir du Raphaël, en tout cas, on en a. Beaucoup de peintures italiennes, 16e, 17e aussi. Guido Reni, par exemple, est un nom qui revient énormément dans les collections. Ensuite, on se passionne beaucoup pour le 17e français, en France, évidemment. On estime que cette nouvelle école de peinture qui a été fondée, en quelque sorte, par Nicolas Poussin, est vraiment la base d'une collection de qualité. C'est-à-dire qu'on collectionne évidemment Nicolas Poussin, mais Claude Gelée, dit le Lorrain, a un succès phénoménal. C'est un...
Je connais pas du tout, lui.
Un peintre de paysages. Mais alors, de paysages un petit peu... Enfin bon, c'est un peintre incroyable. Très, très, comment dire, subjectivement. Qui peint énormément des vues de port, des scènes de coucher de soleil, etc. On collectionne Philippe de Champaigne, Jacques Stella. Et dans la dimension plus moderne, donc, on inclut dans les collections les peintures septentrionales, c'est-à-dire du Nord, c'est-à-dire les peintures flamandes et hollandaises. Ici, on retrouve évidemment Rubens pour ses petits formats, Rembrandt, évidemment. Et enfin, évidemment, dans la peinture moderne française, on retrouve Fragonard, Hubert Robert.
Ça, on vous renvoie vers l'épisode précédent pour ça.
Exactement, hein. C'est ça. Et je rajoute même Oudry et Chardin, dont on reparlera après, qui sont eux plus spécialisés sur la peinture animalière et la nature morte.
Mais ce que je me demandais justement, là pour faire un peu le lien avec l'épisode précédent sur Hubert Robert et Fragonard, qui sont vivants au moment de ces collections, donc les collectionneuses peuvent les rencontrer, est-ce que les collectionneuses peuvent devenir mécènes et donc peut-être faire des commandes ? Et là du coup, est-ce qu'on a un peu des personnes qui sont à la limite entre le mécénat et la collectionneuse ? Et est-ce que c'est pas grave si ça se mélange ?
Tout à fait. Alors, c'est très intéressant comme réflexion. Alors, on a tendance à plutôt scinder le mécénat et la collection. C'est-à-dire qu'on peut être mécène sans être collectionneur.
Donc, commander des œuvres.
Exactement, c'est ça, devenir commanditaire. En revanche, lorsqu'on est collectionneur, on est quand même souvent mécène.
C'est plutôt la classe d'avoir en fait une œuvre où on se dit, bon, on est les premiers à l'avoir, quoi.
Tout à fait, exactement. Et Hubert Robert, notamment, est un des peintres les plus demandés, finalement, par les collectionneurs et les collectionneuses majeures de Paris, au même titre que François Boucher, par exemple, et Joseph Vernet.
Mais est-ce qu'elles sont aussi dénicheuses ? C'est-à-dire, là, je pense qu'on peut raconter un peu de comment est-ce qu'elles font leur collection aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu sais si elles se déplacent ? Comment elles font pour faire entrer des œuvres dans leur collection ?
Alors, effectivement, on peut utiliser de manière un petit peu amusante le terme de dénicheuse parce que c'est le cas. Alors, on a parlé des ventes après décès. Souvent, c'est là que les collectionneuses vont chercher les tableaux qui vont former ensuite le cœur de leur collection.
Qui vont correspondre à leur goût, quoi.
Exactement. Elles peuvent évidemment s'entourer de marchands ou d'experts. Là, je pense par exemple à Pierre Rémy, qui est un marchand collectionneur extrêmement important au XVIIIe siècle. Et donc, les collectionneuses se rendent dans ces fameuses ventes après décès. Ça se passe beaucoup dans les hôtels des défunts. Et donc, à ce moment-là, les collectionneuses se déplacent directement. Malgré tout, le XVIIIe siècle reste une période compliquée pour les femmes, parce que être une femme et évoluer librement dans l'espace public, c'est compliqué. Donc, souvent, elles missionnent des amis, des proches, des experts pour aller dénicher tel ou tel tableau qu'elles ont déjà en tête, enfin plutôt aller acheter pour elles tel ou tel tableau qu'elles ont déjà en tête, ou aller dénicher une pépite, par exemple. Là, pour la présidente de Bandeville, par exemple, j'ai rencontré à quelques occasions son prénom, son nom dans les catalogues de vente, mais souvent, elle demande à son ami l'abbé Gruel, qui était aussi son confesseur, d'aller chercher pour elle.
Confesseur et acheteur, il est vraiment très polyvalent,
non,
ce
mais
monsieur.
Il était formidable. Effectivement, ou à Pierre Rémy, l'expert qui s'occupera de la vente de sa collection, d'aller chercher pour elle les tableaux ou les artefacts naturels.
Il l'a dénigré alors qu'il avait travaillé pour elle. Mais
exactement,
c'est culotté.
Mais c'est extrêmement culotté et surtout, c'est très antithétique.
Et qu'est-ce que tu sais sur comment est-ce qu'elles acquièrent un peu leur savoir sur les œuvres, sur la peinture? Parce que ben, si elles constituent une collection avec un certain point de vue, c'est qu'elles ont quand même un peu de connaissances dessus.
Tout à fait. Alors, on peut acquérir des connaissances sur la peinture par plein de biais différents. Mais souvent, ça commence dès l'enfance en prenant des cours de dessin dans des académies privées ou des académies régionales. Je pense à celle de Rouen, qui par exemple était une des académies de France les plus développées à ce sujet, voire à la toute fin du 18e. Ça, c'est Charlotte Guichard qui le développe beaucoup et c'est très intéressant. Il y a des petits livrets, des carnets de dessin qui apprennent aux jeunes filles, surtout à dessiner pas à pas tel ou tel motif. Donc la pratique est un moyen de connaître.
Mais vraiment, là, on est sur le côté hobby. C'est pour que les jeunes femmes développent leur vie, mais c'est pas
du tout pour
devenir peintre.
C'est pas pour devenir peintre, mais c'est pour apprendre à regarder la peinture par le biais de sa conception.
Le côté loisir aristocratique.
Tout à fait. Ensuite, évidemment, on peut visiter des collections privées, puisque à ce moment-là, le musée du Louvre, évidemment, n'existe pas encore. Le musée du Luxembourg ouvre en 1750, donc on peut aller consulter les tableaux de la collection royale. Pour autant, la visite de la galerie privée reste privilégiée. Ensuite, on observe souvent des gens qui, évidemment, lisent des traités, comme les traités de Félibien, de Roger de Pile, etc. Et on écoute évidemment beaucoup les gens dans les cercles intellectuels. Là, je pense par exemple au salon de Madame Geoffrin, où évidemment, en côtoyant les artistes eux-mêmes, en côtoyant les théoriciens, on finit par acquérir du savoir, tout simplement.
Donc il n'y a pas forcément, on pourrait imaginer, je sais pas, des cours d'histoire de l'art et tout ça. Non, il n'y a pas du tout ça.
Alors, un petit peu quand même, d'une certaine façon, ça, il y a... Alors, ça reste extrêmement rare hein, comme exemple. Mais par exemple, Madame de Genlis a formé les enfants royaux en les amenant au salon annuel de l'Académie de peinture et de sculpture pour leur proposer de disserter sur place sur les tableaux. C'est-à-dire que l'enjeu était souvent de comparer deux tableaux pour voir quelles caractéristiques, quelles qualités un tableau avait intrinsèquement et ce qu'au contraire, il n'avait pas, etc. Donc finalement, le discours et l'observation comparative est un levier extrêmement important pour former son regard et acquérir du savoir.
On en a parlé aussi dans l'épisode précédent, alors je fais beaucoup de références, mais parce que vraiment, bah là, le hasard de ma programmation fait que c'est assez lié. Est-ce qu'on retrouve aussi des collectionneuses qui en quelque sorte, suivent les artistes dans la pratique du grand tour? Donc le grand tour, c'est un peu ces voyages que font des artistes peintres pour aller se former en Italie, pour vraiment apprendre à développer leur art. Est-ce que donc on peut retrouver des collectionneuses dans ce cas-là et qui peut-être ramènent des objets dans leur collection?
Alors, pour l'instant, je n'en ai jamais rencontré. Donc, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. C'est vrai que c'est une pratique qui est très connue chez les hommes, mais pour
les
l'instant...
Les hommes peintres et collectionneurs ou juste peintres?
Non, peintres et collectionneurs. Par exemple, Hubert Robert, Fragonard et le duc de Choiseul, qui est aussi collectionneur, partent tous les trois pour ramener des œuvres de leur voyage.
Et tiens, tu en as parlé un petit peu, et ça m'intéresse beaucoup. En général, donc, qu'est-ce qu'elles font de leur collection? Comment est-ce qu'elles organisent leur collection?
Alors ça, c'est peut-être le point central sur lequel je me suis penchée pendant mon master, c'est-à-dire effectivement l'agencement des collections. En fait, c'est un point qui est souvent négligé dans les études sur les collectionneurs et les collectionneuses en général, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le dispositif expositionnel, c'est-à-dire la façon dont on organise la collection pour lui faire dire quelque chose.
La façon dont on la met en scène.
Tout à fait, exactement. Le dispositif expositionnel, donc, c'est un point essentiel pour comprendre les collections, parce que selon la manière dont on va présenter les tableaux, à côté desquels on va les mettre, à côté desquels on va... En fonction des tableaux que l'on va mettre en rapport,
ou des liens
les uns avec les autres, etc., on ne va pas vouloir dire la même chose. Ainsi, on observe des dispositifs très hétéroclites, très divers. Pourtant, il y a un dispositif expositionnel qui est privilégié et dont on parle dans beaucoup de traités. C'est souvent l'organisation suivante, c'est-à-dire les grands formats en haut des murs, les petits formats, souvent la peinture flamande et hollandaise en dessous, comme, et là je cite Roger de Pile, des petits cordons brillants, puisque évidemment la peinture hollandaise avait une lumière assez singulière, et souvent le dispositif d'encadrement d'une cheminée, c'est-à-dire de flanquer finalement un manteau de cheminée ou un miroir de deux pendants. Ça, c'était très utilisé comme format. Et surtout, de regrouper les œuvres par école de peinture. C'est-à-dire tous les Italiens ensemble, tous les Français ensemble. Et donc, une collectionneuse qui faisait le choix de mélanger certaines œuvres, certaines écoles entre elles, ça pouvait être très intéressant et, comment dire, vouloir finalement proposer une observation comparative entre, par exemple, c'est le cas pour la présidente de Banneville, des tableaux religieux, des tableaux de dévotion, mais des trois écoles, par exemple. Donc, de démontrer la façon, la manière finalement singulière, propre à chaque territoire, entre guillemets, à chaque grande école, de concevoir un sujet identique ou similaire, par exemple.
Mais en général, est-ce que c'est chez elles ou est-ce qu'elles ont un lieu particulier pour mettre en place toute cette collection ?
Alors, pour l'instant, je n'ai jamais rencontré de femme qui aurait conçu une collection dans un endroit qui est autre que son hôtel particulier. Je crois que c'est presque la règle, entre guillemets, au 18e. Autant au 17e siècle, par exemple, comme les collections sont souvent royales ou princières, on peut allouer une aile complète d'un palais, par exemple, pour faire une collection. Là, je pense à, par exemple, à la collection du Palais du Luxembourg de Marie de Médicis, par exemple. Mais au XVIIIe siècle, comme on conçoit les espaces intérieurs des hôtels particuliers comme des tout petits salons, on n'a plus ces grandes galeries très impressionnantes, très solennelles, mais on a plutôt, finalement, la multiplication de petits espaces d'exposition et qui, donc, incarnent des niveaux différents de collection, dans le sens où, souvent, les collectionneuses allouent à certains endroits, comme les salons de réception, par exemple, un certain type d'œuvre. Et plus on avance dans les parties privées des appartements, plus la collection évolue et finalement, devient plus intime.
Donc c'est vraiment en fait une forme de conception de mini-musée personnel.
Exactement.
Et ce que tu dis, en fait, juste ça m'évoque, si jamais des gens peuvent te voir, alors c'est pas du tout 18e siècle, mais plutôt 19e, en fait, si vous allez au musée Gustave Moreau à Paris, donc qui est en fait les anciens appartements du peintre, et ben, ce que tu me dis sur le fait que comment sont disposés les tableaux, c'est un peu ce qu'on retrouve encore aujourd'hui sur la façon dont sont mis tous les tableaux au mur avec vraiment beaucoup de choses, avec des petits au niveau des yeux et des grands au-dessus. C'est un petit peu comme ça, j'ai l'impression.
Tout à fait. Finalement, c'est ce qui paraît le plus intuitif pour pouvoir profiter des œuvres correctement. Mais alors, tu as parlé de mise en scène, je me permets de rebondir rapidement là-dessus. J'ai deux exemples en tête qui sont assez amusants, je trouve, notamment sur la dimension intime que peut revêtir une collection. Par exemple, chez la présidente de Banneville, elle conçoit donc ce fameux dispositif expositionnel et prévoit des places un peu singulières pour des œuvres un peu inattendues, entre guillemets. Par exemple, elle décide d'accrocher dans sa chambre à coucher, au-dessus de sa tête de lit, un portrait du duc de Sully et d'Henri IV.
Oh, alors, waouh. Oui. Alors, il y a des gens qui écoutent ce podcast qui sont fans d'Henri IV et d'autres qui le détestent, je sais. Donc là, c'est un petit clin d'œil à Virginie. Voilà, elle se reconnaîtra qui adore Henri IV. Je pense qu'elle serait tout à fait d'accord avec la présidente. Elle voudrait aussi un portrait au-dessus de sa tête.
Tout à fait. Alors, évidemment, personne n'entrait comme ça. Enfin, les invités n'entraient pas comme ça dans la chambre à coucher de la présidente. Donc, on peut être assuré du fait que c'était un choix tout à fait personnel. Alors, je l'ai interprété de différentes façons. En tout cas, j'ai proposé différentes interprétations pour expliquer ce choix, finalement. Et celle qui semblerait la plus logique, c'est finalement une forme de fidélité à la dynastie des Bourbons et, comment dire, se plaçait dans une forme de respect face à ces rois au moment même, finalement, où le Parlement de Paris connaissait de très fortes tensions avec notamment le pouvoir royal et Louis XV. Donc c'était une forme, finalement, de révérence au roi et à la monarchie en général.
Mais intime, vu que c'était dans sa chambre.
Mais extrêmement intime, effectivement. Autre chose, pour la comtesse de Véru, donc cette fameuse femme qui a révolutionné l'appétence pour la peinture nordique, cachait un portrait royal anglais peint par Anton van Dyck derrière un rideau et c'était le clou de sa collection. C'est-à-dire qu'à la fin de la visite de la galerie, elle détachait de manière très dramatique le rideau pour révéler finalement ce qui était le chef-d'œuvre de sa collection.
La drama queen, quoi, vraiment.
Exactement, vraiment.
Alors, on pourrait encore en parler énormément, on approche de la fin de l'épisode, mais j'ai forcément une question que je pense beaucoup de gens se posent. Comment est-ce que tu as toutes les informations sur ça? Quelles sont les sources que tu as pu consulter pour pouvoir nous raconter autant de détails sur les collectionneuses?
Alors, il y a plusieurs sources sur lesquelles j'ai travaillé. La première chose, évidemment, ça va être tout ce qui est acte notarié au minutier central de Paris. Donc, les quittances d'achat pour certaines œuvres, même si ça reste plutôt rare, les inventaires après décès, les commandes de travaux, par exemple pour réaménager les appartements intérieurs et concevoir de nouveaux espaces pour la collection, et également les catalogues de vente après décès.
Mais comment tu as des informations sur comment, là par exemple, le détail avec le rideau, comment tu as trouvé ça ?
Alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé.
D'accord, oui.
Voilà, c'est Michael Zanto, justement, d'accord. Lorsqu'il a étudié...
Donc, ton directeur de recherche.
Voilà, ouais. Exactement. Lorsqu'il a étudié la comtesse de Véru, qui a retrouvé des carnets de voyageurs qui mentionnaient ces détails croustillants.
Mais donc, que sont devenues ces collections ? Tu l'as dit, il y en a beaucoup qui étaient vendues, mais est-ce qu'on en a qui sont restées dans les familles ? Est-ce qu'on en a qui sont parfois même en entier mis dans des musées ?
Alors ça, c'est un cas extrêmement rare, surtout pour la France et pour ces collectionneuses de la haute noblesse. C'est-à-dire que quasi systématiquement, en tout cas je ne connais pas d'exemple contraire, c'est-à-dire toutes les collections sont disséminées après la mort de ces femmes.
Il y a très peu de familles qui ont conservé ce souvenir-là.
Oh, vraiment. Voilà. Et en fait, ça s'explique beaucoup par la force des choses, entre guillemets, parce qu'en fait, pour devenir collectionneuse, ça on ne l'a pas dit, mais il fallait être une femme plutôt libre. Et qui dit femme libre, dit souvent être veuve. Et il y a plusieurs occurrences de femmes qui ont démarré leur collection après la mort un petit peu tragique de leurs enfants. Donc sans descendance, évidemment, elles avaient, bon, d'une part, elles étaient libérées de toutes les contraintes matrimoniales, maritales qu'impliquait leur statut. Et en même temps, voilà, l'action mémorielle de la collection devenait compliquée sans enfants pour prendre la suite.
Donc elles sont forcément dispersées, quoi,
exactement.
En général.
Exactement.
Et pendant tes recherches, Carla, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ?
Alors, je dirais la disparition des sources de première main, majoritairement. En effet, les archives des femmes ont beaucoup moins bien survécu que les archives des hommes. Aussi, on a mis au pilon certains catalogues de vente, ou avec la Révolution, évidemment, on a perdu beaucoup d'archives, même du minutier central, tout simplement. Donc, le manque de sources pour certaines figures, en fait, j'ai dû abandonner, en tout cas pour l'instant, les recherches sur certaines figures, puisqu'en fait, j'avais pas d'archives de première main. Et ensuite, je dirais les clichés un petit peu sexistes aussi sur l'approche de mon sujet. Souvent, on a jugé assez malvenu de traiter des collectionneuses au 18e parce que les gens pensaient, même les spécialistes, pensaient que soit il n'y en avait pas ou que les collections n'étaient pas intéressantes.
Mais tu veux dire maintenant,
oui.
En fait, maintenant ?
Oui, maintenant.
Oh, d'accord.
Ah oui, non, c'est un peu choquant, je trouve, en 2026, de réagir de cette façon. Mais je pense que ça vient d'une tradition un petit peu séculaire et même dans le principe, dans la définition même de la collection, dans les années 80-90, il y a plein de théoriciens qui ont expliqué qu'il n'existait pas de collectionneuse, oui. Et tout simplement parce que la collection était le propre de l'homme avec un petit h. Et alors, la dérive sexiste arrive finalement assez rapidement, puisqu'il y a un théoricien. Alors, désolé si je prononce mal le nom de ce fameux théoricien, mais par exemple, Munsterberger, dans son Collecting Unreal Passion, explique, je cite, qu'il n'existe qu'une façon de faire collection, c'est-à-dire de collectionner en tant qu'homme, puisque les hommes, de par leur désir sexuel, seraient plus enclins à vouloir posséder. Voilà. Et en fait, il y a cette forme de littérature qui... Non, mais c'est vrai, mais il y a cette forme de littérature, de tradition qui est quasi immuable et qui donc, en fait, explique le fait que je sois la première à travailler sur ce sujet.
Et ça, c'est les années 90, ce que tu me dis ?
Oui. Donc la date, c'est 94.
Ah ouais, donc c'est pas quelque chose des années 50 ou quoi ?
Pas
c'est
du
vraiment
tout.
Plutôt enfin, récent. Bon, c'était il y a 30 ans, certes, mais quand
oui,
même.
Mais c'est en tout cas l'aspect sexuel. Alors, il le dit pas exactement en ces termes, peut-être, mais l'aspect sexuel est omniprésent.
Bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui écoutent avec des enfants cet épisode, mais en gros, c'est parce que ces messieurs ont des attributs masculins entre les jambes qu'ils peuvent collectionner. C'est un petit peu ça, en fait, l'idée.
Oui, oui, oui.
Et parce que les femmes, en gros, sont pas assez intelligentes et ne sont pas assez possessives pour pouvoir collectionner. Enfin, c'est un peu ce qu'ils sont entendus.
C'est ça, en fait, elles ne désirent pas posséder, comme si c'était intrinsèque à l'homme.
Alors, on en parle beaucoup dans Passion médiéviste, mais aussi dans Passion moderniste. En fait, ce sont juste des historiens qui n'ont pas regarder bien les archives, qui ne se sont pas intéressés. C'est parce que
bien sûr,
ils se sont dit « Oh ben non, ça n'existe pas », mais c'est juste qu'ils ne sont pas allés chercher.
Exactement. Et alors effectivement,
mais c'est dingue, ça m'énerve.
moi aussi, ça m'énerve énormément. Évidemment, il y a un plus grand nombre de collectionneurs que de collectionneuses. Ça, c'est une évidence.
Tu dirais, est-ce que tu arriverais à faire un peu un pourcentage de, en moyenne, on peut dire, bon, il y a les trois quarts étaient collectionneurs et on a un quart de collectionneuses, ou c'est compliqué à quantifier?
J'avoue que c'est compliqué de quantifier, mais je dirais qu'en tout cas, pour l'instant, le pourcentage est...
Parce que toi, tu as trouvé sur combien de personnes?
Alors, j'ai travaillé sur la présidente de Bonneville et ses réseaux. Donc, j'ai travaillé sur une dizaine de collectionneuses. Mais par exemple, sur le corpus que je suis en train d'établir pour ma future potentielle thèse, en Europe de l'Ouest, j'en ai plus de 150.
Ah oui, donc c'est pas vraiment quelque chose de minoritaire.
Non, ce n'est pas quelque chose de minoritaire, pas quelque chose de rare du tout. Mais finalement, elles ont tout de suite été évincées, décrédibilisées. Et ces fameux théoriciens, finalement, en prétendant que les femmes ne collectionnaient pas, ils ont donc évincé tout ce corpus sur lequel je travaille. En revanche, finalement, il y avait des figures de proue, des femmes dites exceptionnelles, sortant du lot, sortant de la masse, finalement, des autres femmes qui étaient incapables de collectionner. Et donc, en fait, a formé une scission quasiment irréconciliable entre la masse de ces femmes nobles et ces figures de proue comme la comtesse de Vérus ou Catherine II de Russie, par exemple, l'impératrice.
Oui, c'est toujours dire il y a quelques femmes exceptionnelles, mais donc c'est une exception, c'est
exactement
pas quelque chose qu'on peut voir.
Une exception, pas une règle.
Donc toi, dans tes recherches, tu as pu mettre au jour des archives qui n'avaient été quasiment pas étudiées?
Effectivement, ça a été la très belle surprise de mes recherches. J'ai réussi à retrouver, mais alors en plus complètement par hasard, sur le site des Archives nationales, pour notamment la présidente de Bonneville, une lettre de la commission du Muséum d'histoire naturelle acceptant de racheter l'entièreté du cabinet d'histoire naturelle de la présidente, tant elle avait des spécimens excessivement rares.
Donc il y avait quand même une certaine façon de reconnaissance
tout
de
à
sa
fait.
Collection. Ouais.
Mais elles ont été largement oubliées ou effacées.
D'où l'importance de toujours faire ce genre d'études aujourd'hui.
Et de revenir aux sources.
Et donc, tu l'as dit, donc là, tu es en train de finir ton M2, donc que tu as fait en 2 ans, parce que ça demande beaucoup de travail, tout ce que tu fais. Et je pense qu'on l'a bien compris dans l'épisode, parce que tu défriches. C'est fou que tu sois... Enfin, voilà, bref, il y a beaucoup de choses à faire. C'est cool que tu sois bien encadré pour faire tout ça.
Oui.
Et donc, tu as un projet de thèse. Et en thèse, qu'est-ce que tu veux faire de plus par rapport à ce que tu as déjà fait?
Alors, en fait, ça paraît peut-être beaucoup, tout ce dont on a déjà parlé, mais c'est vraiment un centième peut-être de ce qui reste à découvrir. Alors évidemment, le cercle parisien est extrêmement intéressant, mais ce qui va m'intéresser en thèse, ça va être de faire une sorte d'histoire sociale finalement de la pratique de la collection par les femmes en Europe de l'Ouest. Ouais, je pense que ça risque d'être sympathique.
Mais moi, surtout, alors je pense de loin, mais j'ai hâte de lire le livre que tu écriras sur le sujet.
Oh là là, merci
infiniment. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont penser la même chose, hein, parce que, tu vois, je sais pas, les femmes collectionneuses, enfin bref, il y a déjà un titre, voilà, collectionneur féminin, c'est un peu cliché de dire
mais
les femmes qui collectionnent, je pense que ce serait hyper intéressant à lire, mais en fait, il faut que je te reçoive de nouveau dans quelques années.
Ah bah écoute, ce serait avec... un plaisir immense.
Voilà, bah écoutez, les gens qui écoutent, si vous voulez que je reçoive de nouveau Carla, vous pouvez le dire, effectivement. Mais donc, en attendant que tu publies ton livre, et pour finir un petit peu, même si on pourrait parler encore longtemps, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de livre pour en savoir plus, ou éventuellement un musée à visiter qui soit lié à ton sujet, pour voir peut-être certaines œuvres qui sont très très belles de cette époque-là?
Alors, un musée, pour l'instant, c'est compliqué, puisqu'on n'a pas encore... Enfin, il y a un projet qui est en train de se mettre en place, c'est une forme de musée du matrimoine. Pour autant, sur la période que j'étudie, je pourrais pas vous en conseiller un en particulier. Pour autant, en termes de livres, j'ai une petite liste d'articles ou de livres. Alors, effectivement, comme je suis la première à travailler sur ce sujet, je n'ai pas de grand manuel un petit peu à vous conseiller. En revanche, il y a des articles scientifiques extrêmement intéressants, souvent anglophones, puisque évidemment...
Tu nous compliques la tâche là quand même.
Je suis absolument désolée. Alors, il y a un ouvrage très intéressant de Madame Lawrence qui s'intitule « Women and Art in Early Modern Europe, Patrons, Collectors and Connoisseurs ».
Très bel accent.
Oh, merci beaucoup. Et ensuite, un article plus spécifique sur la pratique de la collection dans le cadre de l'histoire naturelle par Carlyle, « Collecting the World in Their Boudoir », Women in Scientific Amateurism in the 18th Century, Paris.
Waouh. Alors donc ça, on peut les lire en ligne?
Tout à fait. Alors, pas Lawrence, mais Carlyle, évidemment.
Bah, je mettrai de toute façon toutes les infos sur le site. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens.
si vous voulez voir de la peinture du 18e, en revanche, dont certaines œuvres ont été collectionnées par la présidente de Bandeville, je vous renvoie évidemment aux collections 18e du musée du Louvre, notamment aller chercher chez les Chardins, ces fameuses natures mortes, ça c'est magnifique, et puis vous verrez aussi du Hubert Robert, comme ça.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les collectionneuses au 18e siècle. Donc merci énormément Carla Tricon, je pense que tu
merci
as beaucoup transmis ta passion et je pose bonne continuation pour la suite parce que je pense que merci. Ça va intéresser énormément de gens.
Merci beaucoup Fanny, merci infiniment.
Je tiens aussi à remercier les auditeurs auditrices de Passion Médiéviste, alors certaines personnes qui ont été très intéressées parce que quand j'ai teasé le sujet sur le Discord de mes podcasts, qui ont vraiment aidé à réfléchir à des questions, donc je pense qu'ils et elles vont se reconnaître dans les questions que j'ai posées, donc merci énormément à eux. Et j'enregistre cette conclusion, vous l'entendez pas vraiment dans le même contexte parce que actuellement je suis aux Imaginales d'Épinal au moment où sort cet épisode et j'avais pas eu le temps d'enregistrer la conclusion quand on avait enregistré l'épisode. Donc juste un petit mot pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur l'épisode qu'on a fait aujourd'hui, donc sur les collectionneuses, allez voir sur mon site passionmediviste.fr, il y a donc l'onglet Passion Moderniste avec tous les épisodes. Et donc, si vous voulez des conseils de lecture pour en savoir plus, vous aurez tout là-dessus. Je tiens à remercier Baptiste Mossière pour le montage de cet épisode. Et je ne connais pas encore le sujet du prochain épisode parce que j'enregistre un petit peu dans le désordre. Mais n'hésitez pas à me dire sur par message, par mail, ou si vous me suivez par exemple, si vous suivez Passion Médiéviste sur Instagram. Dites-moi quel sujet vous aimeriez avoir dans les futurs épisodes de Passion Moderniste. Voilà, je suis toujours preneuse de vos envies. Allez, moi je vais aller profiter du festival des Imaginales d'Épinal et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut!
Les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus comme son nu parfois. Les arbres en novembre, comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria : je prends, je rachète tous. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passa si vite, on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé.